Der Podcast Reden wir. 20 Stimmen zu Rassismus.
Le podcast Parlons-en, 20 voix sur le racisme. Nous parlerons du racisme sous toutes ses formes, de ses différentes facettes, de ses effets sur le monde et chacun d'entre nous, et sur comment réussir à le combattre. Nous rendons les choses visibles et nous parlerons de ce qui s'est passé 20 ans après la fondation de l'une des institutions les plus importantes dans la lutte contre le racisme en Suisse. Le service de lutte contre le racisme, avec moi aujourd'hui, Mandia Bouchouac. Dans ce deuxième épisode, je parlerai avec la publiciste Vanessa Island-Thompson. Nous parlerons du racisme structurel et institutionnel et de la violence policière. Vanessa Thompson, vous êtes scientifique depuis des années, activiste et active dans la société civile sur le thème du racisme structurel et du racisme institutionnel. Comment en êtes-vous arrivée là?
Vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, auf diese Frage gibt es tatsächlich mehrere Antworten, die sicherlich auch so ein bisschen zusammenhängen.
Je vous remercie vivement de m'avoir invité à cet entretien. Comment en est-on arrivé là? Je pense qu'il y a effectivement plusieurs réponses à cette question qui sont certainement un peu liées entre elles. Adolescente, très tôt, j'ai commencé à m'intéresser aux inégalités, aux relations et aux processus. Je ne pouvais peut-être pas encore les aborder sous cette forme, mais j'étais déjà préoccupée par les différentes inégalités. Et entre autres, l'inégalité raciale. D'une part, je pense que c'est en partie lié à ma biographie, en tant que personne noire née en Allemagne, en tant que femme noire, mais qui a aussi de la famille aux États-Unis, surtout issue de la classe ouvrière noire du sud des États-Unis. J'ai été confrontée assez tôt au fait que la société est traversée par des très très fortes inégalités en ce qui concerne l'accès aux soins de santé, à l'éducation, mais aussi aux questions liées au poste de travail. C'est-à-dire quels profils de personnes travaillaient dans certains secteurs et lesquels travaillaient dans d'autres. Et c'était certainement plus subtil en Allemagne, où j'ai grandi à l'époque. Mais je me suis rendu compte plus tard que ce n'était pas si subtil que ça. C'est-à-dire que je dirais que l'envie d'étudier le racisme est surtout arrivée avec le désir de comprendre comment fonctionnent ces processus d'inégalité. C'est-à-dire de les comprendre, mais aussi de comprendre comment les gens combattent ces processus d'inégalité. J'ai commencé très tôt à m'intéresser aux théories sur les Noirs, radicales, surtout féministes, mais pas seulement à la théorisation. J'aimais bien lire Angela Davis, mais aussi Frantz Fanon. J'ai décidé d'étudier la philosophie, même si je ne savais pas du tout à ce moment-là ce que j'allais en faire, parce que je ne venais pas d'une famille où beaucoup de gens avaient fait des études. Mais il y avait cet intérêt de pouvoir mieux comprendre ce rapport, cette inégalité, ces processus, et de pouvoir comprendre comment ils sont apparus historiquement, mais aussi comment ils s'expriment dans différents contextes. Je viens de parler de l'Allemagne et des États-Unis. J'y ai vu des différences et je voulais comprendre comment elles étaient liées, mais aussi comment elles s'articulaient différemment. Je pense que mon engagement dans des domaines activistes en a été une des conséquences. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé très tôt à m'engager, surtout dans le domaine du renvoi et de la migration. Puis plus tard, de plus en plus, je me suis intéressée à la question de la violence policière. Il était donc important pour moi de mieux comprendre ces processus. C'est là, je pense, que j'ai commencé à m'intéresser scientifiquement au racisme, qui était déjà étroitement lié à la question des luttes de la société civile et des processus de transformation.
Und Transformationsprozessen.
Ja, und bevor wir jetzt direkt in die Auseinandersetzung.
Avant d'entrer directement dans le débat sur le racisme structurel et institutionnel, j'aimerais peut-être vous demander de définir ce qu'est le racisme.
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten ist. Vielleicht fange ich mal an zu sagen, was Rassismus nicht ist. Rassismus ist nicht das, was viele Menschen oft denken, dass Rassismus sei, nämlich das, was einzelne Individuen.
Oui, c'est une question très importante à laquelle il n'est pas si facile de répondre, je pense. Je vais peut-être commencer par dire ce qui n'est pas le racisme. Le racisme n'est pas ce que beaucoup de gens pensent être du racisme, c'est-à-dire ce que certains individus peuvent ressentir lorsqu'ils ont une vision du monde misanthrope d'extrême droite. Il s'agirait d'abord d'une forme d'extrémisme de droite dans laquelle une part de racisme est toujours présente. Mais le racisme n'est pas toujours synonyme d'extrémisme de droite. Et puis, nous devons encore l'élever à un autre niveau, car le racisme n'est jamais seulement un phénomène entre individus, mais le racisme désigne un rapport social. Nous voyons donc ici que la société joue un rôle et que cela a aussi un rapport avec les structures et les modes de production. Dans ce cas, il s'agit vraiment du mode de production capitaliste, c'est-à-dire la manière dont la société se reproduit, aussi matériellement, économiquement, mais aussi idéalement en ce qui concerne les systèmes de connaissances qui traversent une société, c'est-à-dire comment l'ordre social, comment une société fonctionne en fait. Et le racisme est intégré à ces processus en tant que relation. Et c'est un rapport qui place les gens dans des relations hiérarchiques, les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire les uns sont inférieurs, les autres sont supérieurs. Les uns, les autres, donc, sont inférieurs, c'est-à-dire inférieurs et supérieurs. Cela signifie que nous avons ici une attribution complémentaire grâce à cette relation. Et cette attribution complémentaire est très étroitement liée aux conditions d'exploitation, d'oppression et de déshumanisation. Vous dites que cette hiérarchie légitime en fait l'exploitation, la déshumanisation et conduit alors au racisme. Où est-ce déjà du racisme?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Es ist auch eine sehr wichtige Frage, die in der Rassismusforschung grundlegend ist.
C'est une question très importante. C'est aussi une question très importante qui est fondamentale dans la recherche sur le racisme. Il est important pour moi de dire qu'il y a différentes approches du racisme, comme celui-ci est expliqué. Il y a, je dirais, des approches marxistes classiques, comme par exemple celle des théoriciens noirs comme Eric Williams, qui a argumenté que le racisme est né de l'esclavage, de l'économie de plantation, pour la légitimer. Dans ce sens, le racisme est avant tout compris comme une idéologie, comme quelque chose qui doit expliquer les processus d'exploitation. Mais il existe aussi d'autres théories du racisme qui, à mon avis, soulèvent un point important et soutiennent que la racialisation elle-même n'est pas née du capitalisme pour légitimer l'exploitation, mais qu'elle a joué un rôle avant cela, c'est-à-dire avant le développement du colonialisme en Europe. Ces processus de racialisation ne se sont pas basés sur la biologie ou sur ce qui est considéré comme de la biologie, mais sur la question suivante. Ces personnes ont-elles une âme ou non? C'est la question sous Christophe Colomb, lorsqu'il s'agissait de l'expansion des Amériques de l'occupation, qui s'est naturellement accompagnée d'un crime violent génocidaire où des gens se sont battus en Espagne pour savoir si on pouvait réduire les gens en esclavage ou non, s'ils avaient une âme ou non. Et cela remonte encore plus loin à la question de savoir si les Juifs et les musulmans du sud de l'Espagne peuvent se convertir ou non. Cela signifie que nous avons déjà ici une question très forte. Pouvons-nous jamais les qualifier de chrétiens? C'est un peu la lecture des chercheurs comme Stewart Hall ou Cédric Robinson ou encore Étienne Balibar, qui ont montré que certains processus de racialisation existaient déjà avant la genèse du capitalisme, mais que celui-ci les a bien sûr fossilisés ou rendus utilisables pour l'interaction avec l'exploitation. Mais le racisme a aussi sa propre vie, il n'est pas seulement lié au capitalisme. Le racisme ne fonctionne pas toujours rationnellement selon une logique d'exploitation. Il a aussi sa propre vie, si nous pensons par exemple au génocide et aux crimes de masse racistes. Et je pense que c'est important de voir ces rapports ou le racisme comme un rapport social de hiérarchisation des personnes en relation avec l'exploitation des personnes, mais en même temps de voir que cette exploitation a toujours besoin du racisme. Et c'est le point important que font des gens comme Stewart Hall ou Ruth Wilson Gilmore lorsqu'ils disent que le capitalisme est toujours racial, car dans le capitalisme, il faut toujours accumuler. Et cette accumulation ne fonctionne que si les groupes humains sont divisés et que ces différences sont exploitées pratiquement tout le temps. Cela signifie que nous avons une relation très étroite entre le racisme et le capitalisme. Je pense qu'il y a un autre point que j'aimerais ajouter à cette question. Le racisme est un rapport social, c'est-à-dire qu'il structure l'ordre social et place les gens dans des positions différentes, sur une échelle hiérarchique. Cela joue un rôle dans la question de savoir comment fonctionnent les processus d'exploitation, les processus d'oppression et ainsi de suite. Il est important pour moi de dire que cette relation est changeante. Le racisme est un phénomène historiquement changeant qui n'est pas fixe. Cela signifie que dans le contexte historique, nous voyons que le racisme se fixe à différents marqueurs. Et l'un des marqueurs historiques constants est la couleur de peau.
Einer der historisch konstantesten ist Hautfarbe.
Vielleicht bevor wir auf die unterschiedlichen Rassismen zu sprechen kommen, möchte ich trotzdem...
Peut-être qu'avant d'aborder les différents racismes, je voudrais quand même m'arrêter un instant. Vous avez dit que le racisme structurait les personnes et créait une relation entre les personnes. Y a-t-il un rapport
Hat
entre les deux?
Hat das etwas miteinander zu tun?
Definitiv, weil struktureller Rassismus eigentlich zeigt, wie...
Définitivement, parce que le racisme structurel montre en fait comment les groupes sont créés par le racisme. Les groupes de racisme ont des approches différentes de l'organisation de la société.
Ja, jetzt sagen Sie Organisation und Struktur in einem Satz.
Vanessa Thompson, que signifie le racisme structurel? Que signifie le racisme institutionnel? Et comment les distinguer l'un de l'autre?
Struktureller Rassismus bezeichnet eigentlich die Benachteiligung von Gruppen.
Le racisme structurel désigne en fait la discrimination de groupes en fonction de certaines caractéristiques raciales dans une société, ainsi qu'en fonction de l'histoire, de l'évolution historique de cette discrimination. Oui, lorsque nous réfléchissons à la manière dont une société est structurée, par exemple à la manière dont le marché du travail ou le marché de l'éducation est structuré, nous avons affaire à des structures. C'est le niveau social, le niveau structurel, le niveau institutionnel. C'est là que nous avons affaire à la vie interne des institutions. Nous pouvons dire que le racisme structurel se réfère à l'éducation raciste de la société et que le racisme institutionnel fonctionne de la même manière que la société. Celui-ci reflète en fait, à petite échelle, la manière dont les rapports racistes traversent les institutions, comme par exemple les institutions policières ou la justice. Oui, et la définition de Macpherson est très utile à cet égard. Ce rapport est né de la pression politique en Grande-Bretagne, lorsqu'il a été prouvé que la police avait mené une enquête erronée dans le cadre du meurtre raciste de Stéphane Lawrence. Cela ne semble pas si inhabituel pour beaucoup en Suisse. Pour beaucoup de gens en Allemagne, cela ne semble pas non plus si inhabituel. En Allemagne, un exemple très important est l'enquête menée après les meurtres du NSU, le soi-disant groupe clandestin national-socialiste, où les familles des victimes se sont retrouvées dans le collimateur de la police parce que l'on disait « oui, cela a probablement quelque chose à voir avec la criminalité clanique ». Les victimes ont donc été transformées en coupables, l'enquête a été menée en référence aux victimes. Et c'est là que le rapport Macpherson a donné une définition utile du racisme institutionnel, à savoir, et je cite, « l'échec collectif d'une organisation à fournir des services adéquats et professionnels aux personnes en raison de leur couleur de peau, de leur culture ou de leur origine ethnique ». Cela peut être vu ou est constaté dans les processus, les attitudes et les comportements qui mènent à la discrimination par des préjugés non intentionnels, l'ignorance et l'inconscience et les stéréotypes raciaux. Le racisme institutionnel désigne donc en fait l'interaction de pratiques, de discours et de représentations au sein d'une institution qui conduit à la discrimination d'un groupe marqué par le racisme. Cela est bien sûr réalisé par des individus, mais cela dépasse le niveau individuel, car il n'y a pas non plus de contrôle institutionnel pratique de ces actions, et c'est un ensemble de discours, de pratiques et de stéréotypes. Le racisme social, quant à lui, signifie en fait comment les processus racistes traversent la société elle-même, les structures de la société. Cela peut être le marché du travail, cela peut être le système éducatif, cela peut être le système de santé. Le racisme de chaque hôpital serait alors à nouveau un racisme institutionnel. Vous venez d'expliquer comment les personnes noires sont criminalisées ou comment les pratiques institutionnelles racistes agissent. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a aussi du racisme institutionnel dans le domaine de la santé ou à l'école et dans l'éducation. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet, Madame Thompson?
Dazu noch etwas sagen, Frau Thompson?
Es gibt im Zusammenhang oder mit Bezug auf die USA oder beispielsweise England.
Il existe depuis longtemps des études sur les États-Unis ou l'Angleterre qui montrent que non seulement les Noirs, mais aussi les migrants, les personnes de couleur, sont moins crus en ce qui concerne leur perception de la douleur, qu'il existe des différences en ce qui concerne l'administration d'anesthésiens, qu'il y a des différences en ce qui concerne les personnes qui accouchent. Par exemple, on écoute moins leurs sentiments. Il y a là aussi un taux de mortalité élevé des enfants. Mais nous avons aussi vu, en ce qui concerne le corona, par exemple, qu'il y a certains groupes qui sont plus vulnérables, c'est-à-dire plus susceptibles d'être infectés par le virus, mais aussi d'en mourir. Cela signifie que nous avons deux dimensions, à savoir qui fait quel travail, qui travaille dans le secteur des soins, qui travaille au supermarché, qui livre les colis DHL, etc. Donc, qui ne peut pas faire de télétravail à la maison, etc. Mais qui est en fait actif dans des domaines qui sont systématiquement importants? Ce sont souvent des personnes immigrées, des personnes de couleur, etc. Cela signifie qu'ils sont particulièrement exposés au risque d'infection et qu'ils ont en même temps un accès plus difficile au système de santé. En même temps, ces groupes ont aussi des antécédents de santé, c'est-à-dire un taux de cholestérol élevé, un diabète ou un risque d'infarctus. Là aussi, nous voyons comment cela se reproduit de génération en génération, ce que l'on pourrait aussi appeler la production de décès prématurés. Et je crois que c'est pour moi aussi une définition très, très importante du racisme que nous pourrions traduire à peu près ainsi. Le racisme est soit la production et l'exploitation par l'État, soit la production et l'exploitation extra-légale de groupes de vulnérabilité différenciés en vue de la production de morts prématurées.
Das heißt eben, wenn ein Mensch irgendwie prekär in einem Krankenhaus angestellt ist und irgendwie aufgrund der...
Cela signifie que si une personne est employée de manière précaire dans un hôpital et qui travaille beaucoup en raison de difficultés financières, est plus exposée au coronavirus et a donc plus de risques d'en mourir.
Höher ist, selbst daran zu sterben.
Das Risiko ist natürlich größer für Menschen, die in Sektoren arbeiten. Ein anderer ist natürlich die ganze Essensproduktion. Ja, wir haben die sogenannten Hotspots gesehen in Deutschland.
Le risque est évidemment plus grand pour les personnes qui travaillent dans ces secteurs, par exemple aussi dans la production alimentaire. Nous avons vu ce que l'on appelle les hotspots. En Allemagne, c'était les industries de la viande. Ce sont des secteurs où travaillent surtout des travailleurs immigrés, des secteurs spécifiques où travaillent surtout des femmes immigrées, dans des endroits où certaines distances ne pouvaient pas être respectées ou n'étaient pas introduites. Le fait que les personnes soient ainsi plus exposées au risque de contamination est une chose, mais il faut aussi savoir qu'elles meurent plus rapidement du Covid en raison de certaines caractéristiques de santé et d'un moins bon accès aux soins de santé. Nous l'avons vu avec la surreprésentation des décès de personnes noires en Angleterre, aux États-Unis, mais aussi dans les banlieues ouvrières racialisées de Paris ou d'autres grandes villes françaises. Et nous avons également eu une période en Allemagne, pendant le corona, où l'on disait qu'il y avait un nombre incroyable de personnes immigrées dans les services de soins intensifs.
Die Fachstelle für Rassismusbekämpfung hat gerade eine Forschung zu institutionellem Rassismus in Auftrag.
Le service de lutte contre le racisme vient de commander une recherche sur le racisme institutionnel au Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population. Malheureusement, il n'y a pas encore autant d'études sur ce thème en Suisse, contrairement à l'Allemagne, l'Angleterre et aux États-Unis. Mais ce qui est déjà un thème en Suisse, c'est le racisme à l'école, donc dans l'éducation. Différentes personnes ont mené des recherches à ce sujet et il a pu être prouvé que les personnes non blanches, les personnes noires, les personnes de couleur continuent d'être dévalorisées dans les manuels scolaires, dans les récits et que la diversité n'est pas représentée. 40% des personnes qui vivent en Suisse sont issues de l'immigration. Cela n'est pas représenté ni dans le corps enseignant, ni dans les manuels scolaires. Et c'est un gros problème. J'aimerais aborder avec vous ce sujet. Que fait-on alors contre la discrimination institutionnelle et structurelle? Que fait-on contre le racisme institutionnel?
Ich denke viel auf unterschiedlichen Ebenen. Also ich glaube, dass wir auch schon vor den Black Lives Matter-Protesten aus den letzten Jahren in unterschiedlichen Bereichen zivilgesellschaftliche.
Je pense beaucoup de choses et à différents niveaux. Je pense que même avant les protestations de Black Lives Matter de ces dernières années, nous avons vu des luttes contre le racisme dans différents domaines de la société civile, mais aussi de la politique de mouvement. Et ces luttes peuvent aussi être retracées historiquement. Souvent, d'ailleurs, on n'en parle même pas. Parce que lorsque nous parlons des luttes noires, on dit souvent oui, mais on ne peut pas simplement ramener cela des États-Unis ici. L'Europe a été le centre de l'organisation de la diaspora africaine dans la première moitié du XXe siècle, dans les années 20, dans les années 30, etc. C'est là que se sont déroulés les congrès panafricains. C'est ici que la Negro Workers Alliance s'est réunie. Il s'agissait d'une organisation de travailleuses noires, principalement issues des régions anciennement colonisées, qui était active à Paris et qui était active à Hambourg. Donc, pour être tout à fait clair, les luttes remontent aussi loin que les structures racistes et les systèmes d'exploitation eux-mêmes. Les révolutionnaires haïtiens luttent dans les plantations. Les luttes anticoloniales, la conférence de Bandung, ce ne sont que quelques mots-clés que je peux lancer maintenant qui montrent que la résistance elle-même fait partie de cette histoire. Et je pense que c'est très important de toujours regarder en arrière. Mais si nous ne parlons que de ces dernières années, je pense que c'est peut-être un peu ce que je voulais dire. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a des initiatives qui s'engagent pour la décolonisation de la ville, parce que, bien sûr, le racisme et le colonialisme, qui sont aussi très étroitement liés, marquent aussi notre conception de l'espace. Ou comment, par exemple, l'architecture, quelle statue blanche, quelles rues sont nommées d'après qui ? En d'autres termes, l'empreinte du racisme se retrouve dans tout notre univers quotidien. Il y a énormément d'initiatives qui, sous la bannière de la décolonisation, se battent pour changer les noms des rues et pour enlever les images racistes et pour historiciser ou contextualiser le racisme des statues des personnes qui sont célébrées comme des éclaireurs, mais qui, en même temps, n'ont pas seulement diffusé, mais aussi produit des soi-disant pseudo-théories inhumaines. Ensuite, en ce qui concerne les universités et les écoles, nous avons les problèmes de matériel éducatif qui ne se diversifie pas, qui ne représente pas les différentes personnes d'une manière ou d'une autre, qui n'a pratiquement pas d'éducation antiraciste, c'est-à-dire une éducation qui ne fait pas avancer les choses, qui ne les fixe pas. Cette déshumanisation est la production de l'autre, c'est-à-dire de l'étranger, dans les têtes, dans les salles de classe et les séminaires. Ensuite, nous avons bien sûr des luttes dans le domaine des autorités de sécurité et de l'appareil policier depuis longtemps, et pas seulement depuis l'année dernière. Dans de nombreux pays, il y a depuis longtemps des initiatives en matière d'homicides policiers, comme en Allemagne, Mike Ben Peter, si nous le regardons en Suisse, Adama Traoré, si nous regardons en France. Et là, nous voyons aussi toujours des initiatives qui se forment pour dire nous voulons que l'on fasse la lumière sur ce qui s'est passé. Comment se fait-il que, lorsqu'il s'agit d'un meurtre commis par la police, les rapports de police soient simplement repris par les médias, que les familles soient criminalisées ou que les personnes qui se battent pour la justice soient criminalisées ? Le racisme est aussi toujours étroitement lié au nationalisme et au tracé des frontières. Oui, nous ne pouvons pas non plus parler de racisme sans parler du régime des centres de rétention, sans parler de la militarisation des frontières et de la fermeture des routes de fuite qui sont toujours liées à la destruction des moyens de subsistance. Des luttes ont lieu sur tous ces fronts, y compris dans le domaine culturel. Comme la question du blackfacing au théâtre, par exemple, qui concerne aussi le niveau juridique, on peut le dire, beaucoup de choses ont évolué. Il y a des gens qui se sont battus à Berlin pour une loi anti-discrimination qui, pour la première fois, donne la possibilité de se retourner contre les institutions lorsqu'il s'agit de racisme. Cela a été une étape importante. Ce sont tous des résultats des luttes des groupes de la société civile et aussi des structures auto-organisées, donc des luttes des groupes en faveur des droits de l'homme.
Zum Verhältnis von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Institutionen.
Un mot sur les relations entre les acteurs de la société civile et les institutions qui traitent concrètement de la question du racisme. Comment évaluez-vous les évolutions de ces dernières années? Qu'y a-t-il de plus?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich einerseits denke, dass institutionnel...
C'est une question difficile parce que d'une part, je pense qu'il y a beaucoup plus à faire au niveau institutionnel. Afin de ne pas laisser l'antiracisme devenir une métaphore et pas seulement dans un engagement à lutter contre le racisme, mais vraiment pour dire d'accord, par où commençons-nous réellement? Et bien sûr, c'est aussi une question de savoir comment ses propres pratiques et processus au sein d'une institution sont reflétés et examinés. Et ce, à tous les niveaux. Alors, dans quelle mesure est-elle régulée par la citoyenneté ou non? Ou quelle sorte de hiérarchie existe-t-il dans le système scolaire? En Allemagne, il y a longtemps, il y a eu un système scolaire tripartite qui a été réglé très très tôt. De même à l'université, où il faut se demander ce qui est enseigné, qui y travaille, mais aussi qui sont les personnes qui nettoient l'université, dans quelles conditions de travail sont-elles effectivement employées, ou encore qui ne peut pas être à l'université. Cela signifie donc qu'il faut être vraiment plus global sur la décolonisation, penser à des implémentations critiques contre le racisme, non seulement pour tout fixer sur le personnel et le matériel, mais sur les structures. Et je pense que les mouvements de la société civile ont beaucoup à offrir ici.
Vanessa Eileen Thompson, wie sieht eine...
Vanessa Eileen Thompson, à quoi ressemble pour vous une société sensible à la discrimination?
Danke, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich mag Fragen, die mit Visionen enden. Für mich wäre eine...
Merci, c'est une très, très belle question. J'aime les questions qui se terminent par une vision sur l'avenir. Pour moi, une société sans discrimination serait une société dans laquelle l'ordre social qui a rendu possible des structures telles que l'esclavage, le colonialisme et l'exploitation, eh bien, n'existe plus. Une société où les personnes peuvent vivre ensemble dans une égalité radicale et une démocratie. Et cela dans des institutions qui sont favorables à la vie et non à la violence.
Das war Episode 2 von Reden.
Merci beaucoup, Vanessa Thompson. Merci beaucoup pour cet entretien. C'était l'épisode 2 de Parlons-en, 20 voix sur le racisme avec Vanessa Eileen Thompson. Dans le prochain épisode, nous aborderons la dimension juridique du racisme. Nous nous entretiendrons avec le juriste Tariq Naguib et l'avocate Brigitte Lembadio, ainsi qu'avec Alma Wicken, directrice de la Commission fédérale contre le racisme. Parlons-en, 20 voix sur le racisme est un podcast du service de lutte contre le racisme de la Confédération, réalisé par Podcast Lab, à écouter sur Apple Podcasts, Spotify et partout où il y a de bons podcasts. Et pour tous ceux qui aiment Instagram, vous pourrez y retrouver aussi un petit film. Bien entendu, ce podcast est également disponible sur le site internet du service de lutte contre le racisme.